Annie, deuxième partie, chapitre 1. Fidèle à sa promesse, Annie avait amené sa mère à demander elle-même de ne pas vendre le château. Dans le monde qui se respecte, on passe maintenant la plus grande partie de l'année à la campagne, et l'on ne quitte ses terres qu'au printemps, quand Paris est dans la splendeur de sa saison, comme Londres. Pourquoi ne pas se conformer à cet usage qui, pour eux, n'avait que des avantages? Rester à Paris, n'est-ce pas se condamner à continuer d'anciennes habitudes qui n'étaient plus en rapport avec leur nouvelle position, et des relations qui, n'ayant jamais eu rien d'agréable, deviendraient tout à fait gênantes? Acceptable, rue de l'Abreuvoir, certaines visites seraient plus qu'embarrassantes, boulevard Haussmann. Ces raisons, exposées une à une avec prudence, avaient convaincu Madame Barinck qui, après un premier mouvement de révolte, commençait d'ailleurs à se dire, et sans aucune suggestion, que la vie de château avait des agréments. D'autant plus chic de se faire conduire à la messe en landau que l'église était à deux pas du château. Plus chic encore de trôner à l'église dans le banc d'honneur. Très amusant de pouvoir envoyer à ses amis de Paris un saumon de sa pêcherie, un gigot de ses agneaux de lait, des artichauts de son potager, des fleurs de ses serres. Si, au temps de sa plus grande détresse, elle s'était toujours ingéniée à trouver le moyen de faire autour d'elle de petits cadeaux, un œuf de ses poules, des violettes, une branche de lilas de son jardinet, un ouvrage de femme, qui témoignait de son besoin de donner, maintenant qu'elle n'avait qu'à prendre autour d'elle, elle pouvait se faire des surprises à elle-même qui la flattaient et la rendaient toute glorieuse. « Crois-tu qu'ils vont être étonnés ?» disait-elle à Annie quand lui venait l'idée d'un nouveau cadeau. Quel triomphe en recevant les réponses à ses envois, et quelle fierté quand on lui écrivait qu'avant de manger son gigot, on ne savait vraiment pas ce que c'était que de l'agneau. Par là, cette propriété qui produisait ses agneaux et donnait ses saumons lui devenait plus chère. Son consentement obtenu, les travaux avaient commencé partout à la fois. Dans les vignes, que les charrues tirées par quatre forbeux du Limousin défrichaient, dans les écuries, qu'on transformait en étables, enfin dans la prairie, où les maçons, les charpentiers et les couvreurs construisaient la laiterie et la porcherie. Bien que la vigne de ce pays n'ait jamais donné que d'assez mauvais vin, c'est elle qui, dans le cœur du paysan, passe la première. Avoir une vigne est l'ambition de ceux qui possèdent de quelque argent. Travailler chez un propriétaire et boire son vin, celle des tâcherons qui n'ont que leur pain quotidien. Quand on vit commencer les défrichements, ce fut un étonnement et une douleur. Sans doute ces vignes ne rapportaient plus rien, mais ne pouvaient-elles pas guérir un jour ou l'autre, par hasard, par miracle? Il n'y avait qu'à attendre. Et l'on s'était dit que le frère aîné n'avait pas tort quand il accusait son cadet d'être un détraqué. Ne fallait-il pas avoir la cervelle malade pour s'imaginer qu'on peut faire du beurre avec du lait sortant de la mamelle de la vache? Si cela n'était pas de la folie, qu'était-ce donc? Or, les folies coûtent cher en agriculture, tout le monde sait cela. Aussi, tout le monde était-il convaincu qu'il ne se passerait pas beaucoup d'années avant que le domaine ne fût mis en vente. Et alors, dame, alors, chacun pourrait en avoir un morceau, et, dans les terres régénérées par la culture, les vignes qu'on replanterait feraient merveille.